Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Alors que la guerre à Gaza s'enlise, les tirs de drones contre 7 humanitaires internationaux la semaine dernière sont venus accroître la pression sur Israël. Des morts qui s'ajoutent à celles de plus de 33 000 Palestiniens selon les chiffres divulgués par le Hamas à Gaza. Aussitôt, le débat sur la fourniture de matériel militaire à l'État hébreu est relancé. Le Nicaragua a ainsi déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice à l'encontre de l'Allemagne, accusée, je cite, de faciliter la commission d'un génocide à Gaza.
C'est en effet une excuse pathétique pour les enfants, les femmes et les hommes palestiniens de Gaza que de fournir une aide humanitaire, y compris par des largages aériens d'une part, et de fournir les armes et l'équipement militaire qui sont utilisés pour les tuer et les anéantir d'autre part.
Des paroles et des actes. Vendredi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté de son côté une résolution exigeant un embargo sur la vente d'armes vers Tel Aviv. L'ambassadrice israélienne à l'ONU s'insurge.
Selon la résolution présentée aujourd'hui, Israël n'a pas le droit de protéger sa population, alors que le Hamas a le droit, lui, d'assassiner et de torturer des Israéliens innocents. Israël n'aurait donc pas dû réagir le 7 octobre face aux actes barbares du Hamas. Le 8 octobre, Israël aurait dû donc permettre au Hamas de recommencer encore.
Endeuillé par les massacres du 7 octobre, Israël revendique le droit de se défendre et souhaite l'éradication du Hamas. Dans ce contexte, ses alliés peuvent-ils suspendre leur vente d'armes? Si l'Allemagne et les États-Unis maintiennent leur appui militaire à Israël, des fournisseurs plus modestes comme le Canada, les Pays-Bas, le Japon et la Belgique ont déjà annoncé qu'ils allaient cesser partiellement ou totalement leur livraison. La France, accusée d'avoir poursuivi ses livraisons à Tel Aviv, ne se positionne pas à ce stade. Face à cette guerre qui s'éternise et au risque plausible de génocide à Gaza selon la Cour internationale de justice, faut-il stopper les livraisons d'armes vers Tel Aviv? Et quelles peuvent être les conséquences d'un éventuel embargo sur la sécurité d'Israël?
Trois invités pour ce débat. Aymeric Helluin, bonsoir, chargé de plaidoyer armes et conflits armés à Amnesty International France. Vous avez coécrit avec Sébastien Fontenelle « Vente d'armes, une honte française » qui est parue aux éditions Le Passager clandestin. Selon vous, la France doit cesser de vendre des armes à Israël. C'est nécessaire pour éviter qu'il y ait un génocide à Gaza. Ce sont vos termes. Mais cet embargo que nous demandons, vous référez à Amnesty International, doit concerner l'ensemble des parties du conflit. Guillaume Lagan, bonsoir, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de défense. Vous êtes l'auteur de « Questions internationales en fiche » aux éditions Ellipse. Selon vous, la France ne doit pas suspendre ses livraisons d'armes à Israël car elle exporte surtout des matériels défensifs. Par ailleurs, c'est une très mauvaise idée d'empêcher les Israéliens de se défendre. Et à côté de vous, Camille Cerise-Gesson, bonsoir, madame, rédactrice en chef adjointe à l'Agence Europe. Vous êtes en charge des affaires européennes et étrangères de l'Agence Europe, qui est un média bilingue indépendant basé à Bruxelles. Et selon vous, il y a peu de chances qu'un embargo sur les armes aboutisse. Il n'y a pas de consensus en Europe. La solution pour mettre fin à ce conflit passe par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on démarre avec le chiffre du jour.
115 parlementaires de gauche demandent à Emmanuel Macron de stopper les livraisons d'armes à Israël dans un courrier qui a été adressé au chef de l'État, y compris les armes défensives, en arguant notamment du fait que la France prend le risque d'être complice, je cite, d'un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Guillaume Lagan, on entre tout de suite dans le sujet. Est-ce que la France doit suspendre ses livraisons d'armes à Israël ou pas ?
Je ne suis pas certain que la France le fera, même si certains pays européens ont déjà pris cette décision. D'abord parce que les livraisons d'armes à Israël de la France sont assez réduites par rapport à tout ce que les États-Unis ou l'Allemagne fournissent à l'État hébreu. Ensuite parce que ça serait finalement prendre un peu parti contre Israël, dans un contexte où on sait que c'est très compliqué. On reproche, la France d'ailleurs s'est associée à des demandes de cesser le feu, elle s'est associée à toutes les demandes pour qu'Israël modifie sa méthode, mais sur le fond, elle a dès le 7 octobre quand même manifesté sa solidarité envers l'État hébreu. Et donc les livraisons d'armes, c'est aussi une manière de garantir le droit à la légitime défense d'Israël, article 51 de la Charte des Nations Unies. Et puis, dans le contexte régional, il n'y a pas que Gaza. Il y a le Hezbollah au Liban, où la France a des soldats, elle a Finul, il y a la Syrie, il y a l'Iran. Donc la sécurité d'Israël, ça n'est pas uniquement la bande de Gaza, c'est ce contexte aussi régional.
Éric Helluin, sur cette légitime défense d'Israël.
Bien sûr. Il est évident qu'Israël a le droit de se défendre. C'est le principe de la légitime défense reconnu par la Charte des Nations Unies. Mais je ne crois pas que le principe de la légitime défense reconnu par la Charte des Nations Unies autorise n'importe quelle forme de réponse. Le droit international humanitaire est extrêmement clair. Les lois de la guerre sont là, doivent être respectées. On ne doit pas frapper de façon indiscriminée des civils, de façon disproportionnée, frapper de façon aveugle, appliquer le principe de précaution lorsque l'on frappe des cibles et donc éviter de tuer des civils.
Parce donc que vous êtes pour la suspension.
Nous, Amnesty International, mais ce n'est pas un fait nouveau chez nous. Depuis les premières opérations armées menées par Israël dans la bande de Gaza en 2008-2009, nous avons appelé de façon récurrente, lors des opérations armées d'Israël dans la bande de Gaza, à la mise en place d'un embargo sur les armes à destination d'Israël. Aujourd'hui, le bilan, et nous avons appelé d'ailleurs un embargo sur les armes à nouveau dans le cadre du conflit actuel, dès fin octobre 2023, l'étendue des dommages commis à l'encontre des civils, et l'on parle aujourd'hui de crimes de guerre, la Cour internationale de justice, elle, va jusqu'à parler de risque de génocide, nous amène d'un point de vue légal, non pas au-delà, en se renfermant sur les considérations politiques, géopolitiques, sécuritaires, mais si on se rapporte au droit, et je m'arrête là, le traité sur le commerce des armes impose aux États de ne pas exporter d'armes s'il existe un risque que ces armes puissent servir à commettre des violations du droit international et notamment des crimes de guerre.
Camille, oui, vous dites un embargo, c'est compliqué, voire impossible.
Au niveau européen, ça va être très compliqué. Il faut l'unanimité des 27 États membres. On l'a vu, par exemple, avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui, la semaine dernière, a demandé un embargo sur les armes. On a vu, par exemple, que l'Allemagne s'était prononcée contre. Les États-Unis aussi, par ailleurs. On a vu que des pays européens avaient dit qu'ils étaient en faveur, mais aussi des pays européens, dont la France, qui se sont abstenus. Donc on imagine que si le débat en venait entre les 27, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce serait très compliqué d'avoir l'unanimité parce que les 27 États membres sont déjà très divisés sur la réponse même politique à apporter actuellement au conflit à Gaza. C'est très compliqué pour eux d'avoir une position unie. Donc sur les ventes d'armes, ils vont se référer au fait que c'est une décision nationale. On pourra avoir un embargo de l'Union européenne, mais pour l'instant, ça va rester au niveau national. Ça évitera aussi de montrer que l'Union européenne est encore plus divisée sur le sujet qu'elle ne l'est déjà.
Alors, on va évoquer avec vous, Fanny, le fait que la France soit accusée d'avoir fourni des munitions qu'Israël aurait utilisées contre des civils.
Et oui, c'est une enquête de deux médias d'investigation en ligne, Disclose et Mars Actu. Cette enquête, elle révèle que la France aurait vendu à Israël, livré de petits maillons métalliques dont le rôle est d'assembler des balles de mitrailleuses pour pouvoir tirer en rafale. L'enquête nous dit que la France en aurait envoyé assez pour attacher au moins 100 000 balles entre elles. Or, d'après une ONG, Euromed Human Rights Monitor, qui est citée par cette enquête, ces munitions et donc les maillons français auraient servi fin février à Gaza lors de l'une des attaques les plus meurtrières de ces derniers mois. Ce jour-là, pour rappel, des soldats israéliens avaient ouvert le feu alors que des civils tentaient de s'approcher, d'atteindre un point de convoi d'aide humanitaire. Alors, que répond la France ? Eh bien, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, assure que les licences signées pour la livraison de ces maillons n'autorise pas à Israël à les utiliser pour les armes de sa propre armée, mais pour les armes qui sont destinées aux armées étrangères, donc exportées. En clair, ces maillons ne doivent pas servir à Gaza, ce que confirme par ailleurs le PDG de l'entreprise marseillaise qui les fabrique. Guillaume Laguen, est-ce que la France peut vraiment maîtriser l'usage qui est fait des maillons qu'elle envoie, qu'elle livre à Israël ?
Si le ministre le dit, c'est que c'est vrai. Il y a derrière des commissions, il y a une commission interministérielle d'exportation des matériels de guerre qui prend ses décisions avec les avis de tous les services administratifs. Donc ce sont des décisions qui sont généralement mûrement réfléchies. On n'exporte pas des matériels de guerre comme on exporte des matériels un peu civils de tout venant. Donc il y a quand même une réflexion derrière. Effectivement, le vendeur d'armes, il a normalement un droit de regard sur l'usage final par la puissance achetante de ces armes, en particulier lorsqu'elle veut les céder à une autre puissance, il a un droit de regard. Et la France, comme d'autres pays, comme les États-Unis, elle l'exerce. Donc, en l'occurrence, je ne connais pas le dossier précisément, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais ce sont des procédures qui sont généralement suivies en France.
Émeric Éluin, la France, donc, elle livre des maillons, elle des armes, elle livre aussi de l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois, jouer un peu sur les deux tableaux, entre guillemets ?
Alors, clairement, non, pour nous. Pour revenir déjà sur la position de la France, effectivement, elle est très active au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle délivre une aide humanitaire. Et avant même de parler d'un embargo sur les armes, elle a déjà mis en place une suspension partielle de certains flux d'exportation. On ne sait pas lesquels, peut-être uniquement sur des biens offensifs, on ne sait pas. Ce qui me permet de rebondir sur votre interrogation aussi sur la société Eurolinks. Parce que
la société qui fabrique les maillons.
À partir de quel moment on peut contrôler clairement sur le
la
terrain.
Destination,
la destination, l'utilisation finale
du produit.
La France a fait le choix, il y a bien des années, d'assurer un contrôle en amont, pas en aval.
Oui.
La réponse à cette investigation vient trop tard par rapport aux premiers éléments qui ont été donnés sur la suspension des exportations partielles de la France en février. Sur le lien entre le fait de fournir de l'aide humanitaire et en même temps fournir des équipements militaires, clairement, l'aide humanitaire qu'on apporte ne va pas dédouaner les États de leurs responsabilités. La responsabilité aujourd'hui dont on parle, c'est laquelle ? La France a deux obligations. En premier lieu, respecter les conclusions de la Cour internationale de justice du 26 janvier, c'est-à-dire s'assurer qu'elle les mette en œuvre et que Israël les respecte. Et enfin, en tant que partie à la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour que ce crime de génocide, qui est plausible, ne se réalise pas. Donc, est-ce que l'aide humanitaire aujourd'hui de la France est suffisante pour venir en aide aux Gazaouis qui meurent de faim ? On parle de famine provoquée.
Guillaume Lagan.
Non, je rebondis juste sur je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que ça part quand même du présupposé qu'il y a un génocide qui est en cours à Gaza. Or, à ce stade, ce que la Cour internationale de justice a dit, c'est qu'il y avait un risque et qu'elle instruisait ensuite les demandes de l'Afrique du Sud. Et puis ensuite, il y a des accusations qui ont été portées par divers organes de l'ONU sur l'action d'Israël. Mais vous n'avez pas de consensus international sur le fait qu'un génocide, je rappelle qu'un génocide, c'est une destruction systématique d'une population avec une intention de la détruire. Ces accusations, pour l'instant, sont des accusations, elles n'ont pas été établies sur un plan juridique. Donc, du point de vue de la France, il y a aussi une certaine forme de prudence à conserver.
Après. On l'a entendu dans le sujet d'Amira, le Nicaragua, Camille Cerise-Gessant, poursuit l'Allemagne pour avoir manqué à son obligation de prévenir justement le génocide. Comment vous le lisez ? Certains voient du pur cynisme, surtout dans l'utilisation de ce mot de génocide vis-à-vis d'Allemagne, au regard de son histoire.
Exactement, ça peut être du pur cynisme. On peut voir aussi que les États-Unis sont un partenaire commercial important de Nicaragua, donc peut-être que Nicaragua n'a pas voulu s'attaquer aux États-Unis et qu'ils ont déjà des relations commerciales importantes, mais politiques très mauvaises. C'est aussi un moyen, je pense, d'un peu rappeler à l'Allemagne son histoire. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, a rappelé que, de toute façon, l'État d'Israël et la défense de l'État d'Israël faisaient partie de son...
Alors, on va écouter, justement. Vous allez écouter la ministre des Affaires étrangères qui justifie son soutien persistant à Israël au nom de l'histoire et de la Shoah.
Und wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass wir dem internationalen Recht verpflichtet sind. Das beinhaltet das Selbstverteidigungsrecht eines jeden Staates. Das beinhaltet, dass Israel das Recht hat, sich wie jedes Land auf der Welt selbst zu verteidigen gegen diese Terrorangriffe.
Camille Cerise, je vous rends la parole. L'Allemagne n'est que le deuxième fournisseur d'armes d'Israël. Alors, vous disiez pourquoi ne pas s'en prendre aux États-Unis ? Parce que les relations sont mauvaises ? C'est pour ça qu'on vise l'Allemagne ?
Je pense que c'est aussi avec l'histoire de l'Allemagne, et rappeler à l'Allemagne aussi ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Je pense que c'est entre guillemets plus facile de s'attaquer à l'Allemagne sur ce sujet-là.
Guillaume Lagan.
Non, mais je pense que c'est tout à fait exact ce qui a été dit. Et à mon avis, une deuxième raison qui est purement juridique, c'est que quand vous allez devant la CIJ, il y a certains États qui ont souscrit une clause qui s'appelle de juridiction obligatoire, c'est-à-dire que tous les contentieux vont devant la CIJ. Et je pense que l'Allemagne a souscrit à cette clause. Les États-Unis, figurez-vous, avaient souscrit à cette clause jusqu'en 1986, où le Nicaragua les a traînés devant la Cour pour, à l'époque, le soutien à un mouvement anticommuniste contre celui qui était déjà le dictateur du Nicaragua et qui, M. Ortega, qui est encore aujourd'hui au pouvoir.
– Et Émeric Elouin, l'Iran fournit des armes au Hamas, en l'occurrence des armes qui ont servi pour certaines au massacre du 7 octobre. Pourquoi Téhéran n'est pas poursuivi devant la Cour internationale de justice ?–
J'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, le trafic illicite permet d'alimenter effectivement le Hamas et les autres groupes armés palestiniens. Il n'y a pas que le Hamas,
il y a pas que le Hamas,
l'armée. Le Hezbollah aussi alimenté par le trafic djihad d'armes. Que font en fait tous les États pour lutter contre le trafic d'armes qui permet d'alimenter le Hamas et les groupes armés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le Hamas et les groupes armés palestiniens qui ont un tel arsenal, qui ont permis cette attaque du 7 octobre ? Où sont les responsabilités ? Et je rebondis sur la CIJ. La CIJ n'émet pas une opinion. La CIJ, ce sont 15 juges. Vous avez des opinions, nous avons des opinions.
La CIJ émet une
décision qui a valeur juridique.
Juste sur le sujet de l'Iran, je crois que la réalité, c'est que l'Iran bénéficie d'un très large soutien dans les pays du Sud qui sont aujourd'hui majoritaires à l'ONU.
Ce qu'on appelle les
BRICS.
Personne,
bien sûr, ne va traîner l'Iran devant une juridiction internationale, alors que Israël, pour des raisons qui sont bien connues, fait l'objet de toutes les attentions et de cette mobilisation.
Comme toutes les raisons bien connues.
Bien connues. Bah, vous savez, il y a un proverbe en relations internationales qui dit « no Jews, no news », c'est-à-dire pas de juifs, pas de nouvelles. Dès qu'Israël est impliqué dans une situation dramatique comme Gaza, ça suscite une énorme mobilisation internationale, alors qu'à quelques centaines de kilomètres de là, on pense au Yémen par exemple en 2015, vous avez eu l'Arabie saoudite qui est intervenue, des centaines de milliers de civils sont morts, tout aussi arabes qu'à Gaza, et ça n'a pas provoqué les mêmes tensions internationales.
Et ben justement, alors on va vous soumettre une archive, elle remonte à juin 2019, vendre des armes à des clients qui vont s'en servir pour commettre des crimes de guerre. Et ben c'est pas la première fois que la France est confrontée à ceci, regardez l'archive.
Des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des canons. L'armement français se vend bien à l'exportation. Plus de 9 milliards d'euros l'an dernier, soit une augmentation de 30% par rapport à 2017. Mais parmi les meilleurs clients de la France depuis une dizaine d'années figurent, entre l'Inde et le Qatar, l'Arabie saoudite. Un pays qui mène depuis 2015 un conflit controversé avec le Yémen. Plusieurs ONG dénonçant un drame humanitaire. Ce lanceur d'alerte s'est procuré un document secret défense. Il émane des renseignements militaires et s'intitule « Population sous la menace des bombes ». Les ronds verts symbolisent les zones que les canons français peuvent atteindre au Yémen. Depuis le début du conflit, les ventes d'armes de la France à l'Arabie saoudite sont en très nette progression, de 643 millions à 1,4 milliard en 5 ans.
400 000 morts, il y a eu 400 000 morts dans ce conflit. C'est vrai que beaucoup de pays ont regardé ailleurs pour ce conflit-là. Est-ce qu'Amnesty, par exemple, aurait pu poursuivre la France parce qu'elle livrait des armes à l'Arabie saoudite? Est-ce qu'il n'y a pas comme le disait tout à l'heure Guillaume Lagan,
un double standard?
Alors, s'il y a un double standard, il n'est pas chez nous, en fait. Si vous avez suivi nos travaux, déjà dès 2015, dès le déclenchement du conflit, nous avons documenté largement les exactions commises par la coalition emmenée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nous avons produit une étude qui est l'étude Ancil qui vient questionner la légalité des ventes d'armes de la France à destination de cette coalition engagée au Yémen. Nous avons saisi le tribunal administratif avec notamment Disclose qui est dans ce reportage vidéo en septembre 2021 pour avoir accès aux informations douanières sur les transferts d'armes de la France à la coalition engagée au Yémen. Nous avons...
Mais vous êtes d'accord que l'émotion internationale n'est pas la même?
Non, c'est important, je finis.
Par rapport à ce que disait Guillaume Lagarde entre Israël et
l'Arabie saoudite. En septembre 2022, nous avons soutenu une plainte pénale déposée par Sherpa, Issi Hatcher et d'autres devant la justice française pour mettre en cause la responsabilité de Dassault, Thales, Mbeda. Non, pas en vain, on continue. La justice est un processus qui est long. Et vous dites qu'il y a eu 400 000 morts au Yémen. 400 000 morts au Yémen, effectivement, sur combien d'années?
15 ans.
À Gaza, combien de morts? En combien de mois?
Plus de 30 000.
Plus de 30 000, sans doute un chiffre en plus sous-estimé. Il y a tous ceux qui sont disparus sous les décombres, sous les gravats, les bétons, les corps qui vont disparaître, les blessés, 60 000 blessés, plus 70 000, qui seront blessés à vie. Les enfants, 1000 enfants amputés.
Le point commun entre les deux conflits, et c'est ce qu'il faut peut-être aussi garder à l'esprit, c'est que on a des conflits dans lesquels les civils et les combattants sont complètement mélangés. C'est pas comme en Ukraine, si vous voulez, vous avez en gros une guerre conventionnelle avec de temps en temps des civils qui meurent. Là, on est quand même dans des situations où les civils sont disséminés au milieu des combattants, ou plutôt les combattants disséminés au milieu des civils, et ça explique aussi les chiffres très élevés de pertes civiles.
Camille Surigesson.
Non,
sur
oui.
Cette notion
à l'époque, à l'époque, sur l'Arabie saoudite, l'Union européenne avait discuté d'un embargo et la France s'y était opposée. Donc le sujet faisait déjà, en tout cas, réfléchir à Bruxelles, mais on n'avait pas réussi à avoir l'unanimité sur le sujet. Mais c'est vrai que je pense que la question du nombre de morts par rapport à la durée du conflit rentre aussi en ligne de compte et que là, les gens voient qu'en peu de temps, on a plus de 30 000 morts et c'est ça qui fait...
Mais quel aurait l'effet d'un embargo, ce serait quoi sur ce conflit? Est-ce que ça veut dire qu'Israël serait obligé d'arrêter ses opérations ou son stock aujourd'hui est suffisant pour continuer ses opérations?
Alors, moi, je ne connais pas l'état du stock. Je pense que... Ça dépend s'il y a un embargo de l'Union européenne, donc l'Allemagne ne pourrait plus envoyer. Les autres pays, je veux dire.
L'Allemagne, deuxième fournisseur,
etc. Quand on parle des autres pays, je veux dire, le troisième fournisseur, c'est l'Italie, c'est 0,9%. Donc quand la Belgique, la Wallonie annoncent qu'il arrête, les Pays-Bas, c'est la Cour, c'est pas les Pays-Bas eux-mêmes qui ont décidé, c'est une Cour néerlandaise qui leur a dit de ne plus envoyer de pièces des F-35, donc c'est encore un peu différent. Quand ils le font, je veux dire, c'est quand même minime. Si les États-Unis continuent à fournir, même si l'Europe prend un embargo, finalement, ça aura peu d'impact.
On le voit, là, 70% des armes sont envoyées par les États-Unis.
Tout à fait.
Alors précisément, Guillaume Lagan, la balle est dans le camp des États-Unis, premier fournisseur d'armes.
Oui, la balle est dans le camp des États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un débat interne au sein de la majorité démocrate, avec une partie des démocrates souvent située à gauche du parti, qui voudrait justement qu'un alors peut-être pas un embargo, mais en tout cas des restrictions soient appliquées. Les États-Unis peuvent d'abord y avoir intérêt, parce qu'ils sont quand même conscients du fait qu'Israël perd beaucoup en termes de popularité internationale avec cette opération. Et puis, dans un contexte, on le disait tout à l'heure, où on ne sait pas très bien quel est l'état des stocks, les Américains, il faut s'en souvenir aussi, ils ont un autre conflit à mener, même si aujourd'hui c'est un peu gelé au niveau des livraisons, c'est l'Ukraine. Et donc, livrer à la fois à Israël et à l'Ukraine, c'est un défi, et ça pourrait effectivement correspondre à la stratégie américaine que de réduire un peu le soutien à Israël pour l'augmenter du côté de l'Ukraine.
Mmh. – Émeric Elhomme, tout à l'heure, vous disiez, vous avez milité pour un embargo sur les armes depuis plusieurs années, hein, vis-à-vis de… Mais est-ce que ça n'aurait pas pénalisé, clairement, la défense d'Israël après les attaques du 7 octobre, et aussi pour la suite, et mettre en péril son existence même ?–
Écoutez, moi… Je ne fais pas de prospective stratégique ni de rétrospective stratégique.
Mais c'est
moi,
important quand même.
Non. Nous sommes une ONG de défense des droits humains et une ONG dont le travail, c'est de préserver la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les droits qui en découlent, le droit international humanitaire et tous les droits qui en découlent. Donc, notre propos, quand on regarde le conflit en cours, n'est pas de se poser la question de savoir est-ce que l'arrêt des ventes d'armes va poser un problème dans la défense vis-à-vis du Hezbollah ou vis-à-vis d'éléments armés placés en Syrie. Notre question, à nous, c'est de se demander si... Est-ce qu'on arrête les transferts d'armes aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas contribuer à réduire le niveau de souffrance humaine? Quand la France a ratifié le traité sur le commerce. Mais oui, mais quand la France a ratifié. Mais bien sûr. Et quand on appelle un embargo sur les armes, c'est un embargo sur les armes sur toutes les parties au conflit, évidemment, que ce soit les groupes armés palestiniens ou les Israéliens. Mais quand la France ratifie le traité sur le commerce des armes, l'article 1, il dit quoi? On réglemente et on responsabilise le commerce des armes pour réduire le niveau de souffrance humaine.
Camille, il faut prendre en compte aussi qu'Israël a une industrie de l'armement, de défense, et justement Netanyahou, il y a quelques semaines, a demandé à ce que celle-ci soit plus autonome. Je pense que bon, ça prendra du temps, évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain, mais pour pallier potentiellement la défection, si on peut dire,
autonome,
de certains alliés.
C'est un pays qui n'est pas autonome du tout en armement.
Non, mais elle peut quand même produire un certain nombre d'armements. Et qu'est-ce qu'on appelle un embargo? Est-ce que c'est les produits finis? Est-ce que c'est tout le matériel nécessaire pour faire des armes aussi? Qu'est-ce qu'on interdit?
Guillaume Laguen.
C'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est la position israélienne. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté une résolution demandant justement un embargo, un arrêt, etc. Et les Israéliens ont fait remarquer, et les États qui ont voté contre aussi, que cette résolution ne mentionnait pas le Hamas et ne mentionnait pas donc les livraisons d'armes au Hamas. Donc c'est vrai que, on peut aussi comprendre que du point de vue, je le répète, de la sécurité d'Israël, qui est objectivement menacée un peu de toutes parts, la question des protections, la protection des civils israéliens eux-mêmes puisse se poser. Si oui, Spakem parabellum, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc avoir un appareil de défense évidemment solide, c'est aussi quand même une garantie de sécurité.
Vous l'entendez, Émeric Elhomme?
Oui, mais encore une fois, j'en reviens au droit international. Le droit international, c'est vous n'avez pas le droit de faire la guerre n'importe comment. Le droit international, c'est vous avez des règles à respecter. Vous n'avez pas le droit de faire d'attaque indiscriminée, vous n'avez pas le droit de faire d'attaque disproportionnée. Et ça vaut autant pour le Hamas et les événements du 7 octobre et les tirs de roquettes qui ont continué bien après le 7 octobre.
Tirs de roquettes du Hamas contre les civils
qui ont continué bien après le 7 octobre. Et ça vaut aussi pour Israël. On ne fait pas la guerre n'importe comment. On ne tue pas des civils délibérément. On ne prend pas pour cible des civils, même si on est dans une des zones les densément peuplées
au monde.
Par les Gaza. C'est encore pire. Puisque c'est la zone la plus densément peuplée au monde, on prend encore plus de précautions que dans n'importe quel autre conflit pour ne pas frapper des civils. Pardon.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat absolument passionnant et d'avoir exploré notre question du jour autour de l'embargo des armes.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.